7h30 en temps universel, 2h de plus ici à Paris. À l'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, les conséquences des inondations dans la capitale de RDC, Kinshasa, qui déplore la mort d'au moins 30 personnes et des milliers de sinistrés. Le gouvernement a ouvert un stade de la ville pour accueillir certains d'entre eux. Reportage sur place dans quelques instants. Le Parlement européen ensuite, qui dénonce la persécution des journalistes au Cameroun. Les eurodéputés réclament le respect de la liberté de la presse en cette année électorale. Le Gabon, qui votera lui samedi pour sa présidentielle. La campagne vit donc ses derniers jours, mais elle ne rencontre manifestement pas un grand engouement populaire. Nous serons à Libreville. Également au sommaire, la brouille diplomatique entre le Soudan du Sud et les États-Unis. Et puis, un rendez-vous musique avec la 11e édition de l'Atlantic Music Expo au Cap-Vert. Une réunion de crise attendue en RDC autour du président Tshisekedi après les inondations qui ont frappé la capitale en fin de semaine dernière. Elles ont fait donc au moins 30 morts selon le nouveau bilan du ministère de la Santé. Sur place, la polémique enfle en revanche sur la gestion de ces catastrophes pourtant récurrentes. Certaines voix de la société civile réclament ainsi la démission du gouverneur de la ville. En réaction, le chef de l'État, lui, s'est déjà rendu hier au chevet des sinistrés hébergés dans un stade de la ville, le stade Tata Raphaël, qui a été ouvert en urgence. Reportage sur place, Pauline Azidi.
Nous sommes venus ici par l'appel du gouvernement. On nous a appelés, on nous a dit de venir ici pour qu'on se réfugie, vu qu'il y avait inondation là-bas dans nos quartiers.
Devant le gymnase, Charède et un petit groupe de sinistrés attendent d'être enregistrés. Ils ont les regards marqués par la fatigue et l'angoisse de ces derniers jours.
On n'a pas du tout dormi, vu qu'il y avait beaucoup d'eau. Il y a des moustiques, il y a des insectes, il y a des serpents qui sortent dans l'eau. Il n'y a même pas moyen de dormir, tu vois, dormir en haut.
Grâce est arrivée il y a déjà plusieurs heures, mais elle n'a pas encore pu se reposer. Elle attend d'obtenir un matelas.
On nous a donné seulement à manger et à boire. On nous a dit qu'il y aura d'autres matelas. Donc nous sommes en train de patienter. Malgré tout, j'ai mal au dos, je ne me sens pas vraiment bien.
Gladine a pu s'installer avec ses enfants dans un coin de la salle, mais elle reste très marquée par la montée subite des eaux.
On était là à la maison subitement. On a vu de l'eau qui venait avec pression. Donc ça a entré dans des maisons, donc ça détruit. Et puis il y a des gens qui ont perdu le mari, qui ont perdu des femmes, il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. On est en train de chercher, donc on est éparpillés. Papa à côté, maman à côté, les enfants à côté.
Sans maison, sans affaires et sans argent, les sinistrés attendent des solutions de relogement de la part du gouvernement. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Le Cameroun, à présent, épinglé par le Parlement européen pour la persécution des journalistes. Résolution adoptée à l'unanimité la semaine passée par les eurodéputés. Il cite ici expressément les cas d'Amadou Vamulke, Kingsley Fomunu Nyoka, Mancho Bibixi, Thomas Awa Jr. et Tsi Konrad. Le Parlement européen, qui est une des trois institutions du triangle institutionnel de l'Union européenne, il appelle à la libération des personnes précitées, Amélie Tullet, et au respect de la liberté de la presse en cette année de présidentielle.
Le texte rappelle que l'Union européenne est le principal partenaire commercial du Cameroun. Pour la députée européenne Rima Hassan, il était donc crucial que le Parlement prenne position.
Ne serait-ce que d'exprimer une solidarité envers ces journalistes et envoyer un message, je pense, assez clair sur le fait que le Parlement est attentif, en tout cas, à la situation des journalistes dans le pays.
Pour l'eurodéputé, il faut réformer la loi antiterroriste au Cameroun, mettre fin au jugement de civils par des tribunaux militaires et soutenir la demande d'une mission des Nations Unies sur les violations des droits humains. Et même si cette résolution n'a aucun caractère contraignant, elle est la bienvenue pour Cyril Roland-Béchon, directrice de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme à Yaoundé.
Il faut dire que le silence des Européens, qui est un partenaire privilégié du Cameroun, devenait agaçant. Silence sur les situations gravissimes des droits humains vécues au Cameroun. Il faut réformer le système, que ce soit juridique, que ce soit politique au Cameroun, pour combattre, n'est-ce pas, les violations structurelles des droits et libertés fondamentaux au Cameroun.
La défenseuse des droits humains dit souhaiter à présent que le gouvernement camerounais se saisisse de cette occasion pour faire évoluer les situations individuelles des journalistes mentionnés et la situation plus globale des droits des citoyens camerounais.
Amélie Tullet, ajoutons que pour l'heure, il n'y a aucune réaction officielle du côté camerounais après cette résolution. Une réunion... On en vient maintenant à cette décision confirmée à La Haye, la Cour pénale internationale, qui a confirmé les dommages et intérêts prononcés dans le dossier du centrafricain Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de l'armée de la résistance du Seigneur, la LRA. Il purge actuellement une peine de 25 ans de prison. Les juges entérinent ici les quelques 52 millions d'euros qui ont été décidés en février 2024 pour les victimes. Dominique Ongwen avait fait appel, il est donc ici débouté. L'échéance prévue samedi au Gabon, élection présidentielle qui est censée refermer la transition. La campagne vit ses derniers jours avant le scrutin, mais cette campagne se distingue nettement des précédentes. Et oui, en effet, en 2009, en 2016 et en 2023, l'enjeu, c'était une opposition unie qui cherchait à faire tomber Ali Bongo. La campagne était alors vive, mais Ali Bongo a été chassé par un coup d'État en 2023, dans la foulée des élections d'ailleurs. Et cette fois, c'est le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, qui semble mener la danse. Il a rallié autour de lui la quasi-totalité du système politique. Résultat, l'engouement des électeurs ne semble pas forcément au rendez-vous. Envoyé spécial à Libreville, François Mazet.
Sur les grandes artères de la capitale, une seule présence, un seul slogan, c'est enfin notre essor vers la félicité. Les affiches « C'est bon » jouent sur les initiales de Brice Clotaire-Oligui-Nguema. Visuellement, cette campagne a des allures de plébiscite. Et dans les rues, pas de fièvre politique, plutôt l'ordinaire du quotidien. Au stand de nourriture d'une amie, Philippe confirme.
Le temps de répartition, le temps, c'est pas très équitable en fait. On a l'impression que tout le monde vote derrière le CTRI. Il ne suffit pas juste de passer sur un plateau télévisé pour proposer votre projet, mais il faut aussi descendre dans les quartiers, descendre dans les provinces. Et malheureusement, là, ça demande des moyens.
Devant une supérette, trois amis partagent un jus sous un parasol. Annie, Saint-Tiche et Muriel ne cachent pas qu'elles apprécient ce calme apparent.
Très, très calme. On ne ressent même pas qu'il y a les élections. Mais pourtant, il y a les meetings à gauche, à droite. Il n'y a pas de cassure, il n'y a rien. Nous, on est tranquille. On mange, on boit, on dort. Sans problème.
Oui, c'est très calme et ça nous réjouit, nous, le peuple. On prône pour la paix et la tranquillité des Gabonais, donc on a le cœur posé que tout se passera bien par la grâce de Dieu.
En province, la campagne s'anime par soubresaut au rythme des meetings du candidat Oligui-Nguema. Pour les autres, c'est la débrouille, quelques causeries dans des régions familières et une stratégie souvent portée sur les réseaux sociaux. François Mazet, Libreville, RFI.
À peine réconcilié avec la France, aussitôt fâché avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'Algérie est engagée dans une nouvelle passe d'armes diplomatique avec le Mali, soutenu de son côté par le Niger et le Burkina Faso. Alger accusé d'avoir abattu un drone malien en territoire malien. Mais en face, la diplomatie algérienne affirme qu'il a été détruit sur son territoire. Un dossier qu'on évoquait ce matin avec notre invité, l'essayiste nigérien Sedi Kaba, à retrouver bien sûr sur Internet. Autre passe d'armes diplomatique entre les États-Unis et le Soudan du Sud. Washington a décidé de révoquer tous les visas accordés aux ressortissants sud-soudanais, arguant que Djouba refuse de reprendre ses citoyens visés par une mesure d'expulsion. Les autorités sud-soudanaises contestent ces accusations. Le ministère des Affaires étrangères a notamment fourni des détails sur un dossier en particulier qui semble avoir agacé Washington. En attendant, les premiers sud-soudanais concernés par l'annulation de leur visa ont reçu hier un email. Il leur intime de ne pas essayer d'entrer aux États-Unis, Florence Mietto.
Ils ont envoyé un email au langage rude, pas du tout aimable.
Voilà comment Florence, fonctionnaire sud-soudanaise de 27 ans, habituée des séjours aux États-Unis, a appris que son visa étudiant, encore valide un an, était révoqué. Elle avait prévu de se rendre à Washington très prochainement pour entamer un master.
Je ne vais donc pas partir étudier. Cela me fait vraiment de la peine parce que pour moi, mais aussi pour les très nombreux jeunes sud-soudanais dont les études et donc le futur vont pâtir de cette décision. C'est vraiment très regrettable.
Un homme identifié par Washington comme un Sud-Soudanais du nom de Nimeri Garang a été expulsé vers Djouba ce week-end. Mais à son arrivée, il a déclaré face aux autorités sud-soudanaises s'appeler Makula Kintu et être congolais. Il a donc été refoulé. Apukayuel Mayen, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Le gouvernement accueille tous ses citoyens, qu'ils reviennent de façon volontaire ou qu'ils soient expulsés. Le gouvernement regrette profondément qu'en dépit de cette historique de coopération et de partenariat, le Soudan du Sud fait maintenant face à une vaste révocation des visas sur la base d'un incident isolé.
Côté américain, le ton reste ferme. Le secrétariat d'État explique que l'ambassade sud-soudanaise à Washington a certifié la nationalité de cet homme. Il sera prochainement à nouveau expulsé. Les États-Unis intiment à Djouba de ne pas aggraver davantage la situation. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Allez, direction le Cap-Vert à présent. Un petit tour à l'Atlantic Music Expo qui vient de s'ouvrir à Praia. Praia qui va donc vibrer toute la semaine au son des musiques du monde. C'est la 11e édition de ce grand marché de la musique où se mêlent les artistes et les producteurs du monde entier avec l'ambition de monter des partenariats. Un événement désormais essentiel pour faire rayonner l'archipel capverdien et c'est une tradition qui s'ouvre lors d'une cérémonie officielle à l'Auditorium National. Sur place, un reportage de notre envoyé spécial, Guillaume Thibault.
Insuffler la joie et la douceur, faire entendre et connaître les nouvelles voix du pays et d'ailleurs, comme ici le jeune Joshua Martins, l'ADN de l'Atlantic Music Expo. Une vision soutenue par le Premier ministre Ulysse Correa et Silva.
La musique, c'est résilient. Le message de paix. La crise, la récession économique touche tout le monde. Hein. Il faut vivre, toucher la conscience des gens et des politiciens.
Avec un budget de 160 000 euros, l'Atlantic Music Expo réussit à réunir des artistes locaux, mais aussi du Sénégal, du Maroc ou encore du Brésil. Un partenariat public-privé essentiel, explique le directeur Benito Dalus Lopez.
Si, c'est très difficile pour tout le monde, mais au Cap-Vert, c'est toutes les entreprises, les gouvernements qui donnaient une bonne part de budget.
Dans un monde en tension, à l'économie fortement perturbée, l'Atlantic Music Expo met donc en avant l'or du Cap-Vert, sa musique, explique Jorge Lima, membre du mythique groupe Ochtoubaroich et ancien conseiller à la présidence de la République.
La musique et le tourisme que le Cap-Vert vit, c'est sa fortune. On n'a rien d'autre, rien. C'est ça qu'on a. Et la démocratie, c'est ça.
Guillaume Thibault Praia, RFI.
Obrigado.
L'Atlantic Music Expo qui vivra donc sa 11e édition cette année au Cap-Vert. Restez avec nous sur RFI. Toute l'actu, je vous le rappelle, à retrouver en tout temps, en tout lieu sur internet, rfi.fr ou nos applications. Il faut avoir le réflexe, deux applications, Pure Radio et RFI. Merci d'être à l'écoute. Tout de suite, notre matinale continue. Vous retrouvez bien sûr Clotilde Dumay.